Les nouvelles du futur, c'est parti. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Alors c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le dernier de l'année 2021 et je voulais d'abord remercier tous les nouvelles personnes qui viennent écouter ce podcast puisque la croissance de cette année 2021 a été assez fantastique et assez épatante pour moi. Je suis super content que vous soyez tous là. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce programme, à le transférer à vos amis, à mettre quelques étoiles, à mettre quelques petits commentaires, parce que vous le savez, les podcasts gratuits, c'est leur seul moyen d'exister et d'être connus. Donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Donc encore un grand merci à ceux qui m'écoutent toutes les semaines, puisque j'essaie de tenir ce rythme-là. On va essayer de faire à peu près pareil en 2022 et rester sur ce même créneau. Parler de ce qui va arriver tout de suite maintenant, enfin en tout cas du futur proche et immédiat et un peu plus lointain. Allez, première nouvelle de ces derniers jours, c'est bien sûr dans l'univers des techs, la faille de sécurité qui a atteint les serveurs Apache. Hein, on parle de Log4Shell. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler parce que c'est encore resté un petit peu dans la sphère de la tech. En fait, il y a une faille de sécurité qui a été découverte dans les serveurs Apache qui permet d'utiliser et d'exécuter du code malicieux au niveau de l'identifiant et du mot de passe, donc un endroit très 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 stratégique dans l'accès des serveurs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, environ 38% des serveurs dans le monde utilisent cette technologie. Alors, c'est un peu moins qu'en 99, où c'était près de 60%. Mais quand même, donc grosse faille de sécurité et triste nouvelle, à chaque patch qu'il y a eu depuis 8 jours, chaque patch a amené son lot aussi de failles de sécurité supplémentaires. Donc aujourd'hui, si vous avez des amis proches de vous qui sont dans la sécurité informatique ou dans les logiciels en ligne, bah ouais, voilà, vous pouvez leur passer un petit coup de fil, leur envoyer un petit texto parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le cauchemar et ça touche autant des très gros acteurs, des grands acteurs que des petits. C'est vraiment une plaie pour tout le monde. Pour l'anecdote, la faille de sécurité a été découverte parce qu'elle était exploitée sur les serveurs de Minecraft qui utilisent donc Apache et Java. Voilà, donc on espère que ça va vite rentrer dans l'ordre, mais ça montre aussi à quel point nos structures et notre web est encore très fragile. Et du côté de chez Uber, tout a l'air d'arriver à point, puisque, comme vous le savez sûrement, depuis le début du lancement du service, hein, l'objectif c'est de se débarrasser des chauffeurs, puisque vous vous rendez compte, c'est des humains et ça coûte de l'argent. Ben voilà, c'est parti. À partir de ce début d'année 2022 en Californie, Uber tente la livraison de plats, donc avec Uber Eats, avec des voitures autonomes. Alors bien sûr, dans un premier temps, il y aura un chauffeur pour vérifier que tout va bien. Mais l'objectif, c'est de vraiment se débarrasser des humains, un petit peu comme dans Black Mirror. Et du coup, on sait très bien que ça se panie pas toujours bien. Donc ils vont travailler avec une société qui s'appelle Motional, qui travaille déjà avec Lyft, un de ses concurrents principaux. Et voilà, ils estiment que d'ici 2023, voir des véhicules qui livrent des repas de manière autonome aux États-Unis, ça sera tout à fait normal. Du côté de Google, on découvre une annonce dans les sites spécialisés. Il semblerait que Mark Lukowski, qui vient juste d'arriver dans la société qui était chez Oculus, cherche des ingénieurs pour travailler sur du logiciel qui serait intégré à la nouvelle génération de dispositifs immersifs. Il n'en faut pas plus pour que toute la presse s'inquiète et se dise « Est-ce que c'est le retour des Google Glass ?» Puisque vous le savez, il y a vraiment un grand débat sur les prochains appareils de réalité mixte. Est-ce que ça va être des casques de réalité virtuelle avec des caméras ou est-ce qu'ils vont vraiment réussir à tout faire tenir dans les lunettes? En tout cas, c'est un futur proche qui arrive. Bon, mais en tout cas, chez Google, sans surprise, hein, ils travaillent activement sur le sujet, mais on pourrait peut-être voir quelque chose, peut-être même avant que Apple sorte son appareil fin de l'année prochaine. À suivre. Du côté des métaverses, pas mal de débats aujourd'hui sur les définitions et sur savoir qui fait quoi, qui va où et qu'est-ce que c'est que tout ça. Et ce qui est assez amusant de voir, c'est qu'il y a une espèce de nouvelle tendance qui est de dire métaverse, ok, mais peut-être que métaverse, c'est un peu plus la promesse d'un Facebook, donc une société privée qui contrôlerait un petit peu un nouveau web, un web en 3D avec peut-être de la propriété numérique, mais enfin en tout cas qui serait quand même très centralisé. Et de l'autre côté, il y a le web 3. Qui serait donc l'addition du web 1, qui était le début, qui était ouvert, décentralisé, mais qui laissait surtout la possibilité de consommer du contenu, qui viendrait s'additionner au web 2, qui lui était centralisé, démocratique, mais surtout qui permettait aux créateurs de produire et de partager. Le Web3, ça pourrait être ça, le mélange de la décentralisation et de la démocratisation et de la prise de parole. En effet, les technologies qui sont basées sur la blockchain servent aussi à décentraliser et à donner, à distribuer un petit peu le pouvoir de décision. Donc, en effet, ça pourrait peut-être être ce Web3, la fin des plateformes comme Instagram, Facebook ou encore Google. Bon, c'est peut-être un peu prospectif ce que je vous raconte, mais en tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Toujours du côté des métaverses, d'un côté Intel qui s'inquiète et avec un petit peu de sourire pour dire que les métaverses vont demander 1000 fois la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui. Alors c'est bon pour eux puisque fabricants de processeurs, plus de puissance leur veut dire beaucoup de business pour eux dans le futur. Alors on verra s'ils ont raison, mais en tout cas pour l'instant dans le tout de suite maintenant, c'est Nike qui fait un petit peu le buzz puisqu'ils viennent de racheter la société française Artefact qui s'écrit RTFKT. Et Artefact, ils font quoi? Ben, ils font de la mode virtuelle, et notamment des baskets, des sneakers, et donc des genres de Nike 100% virtuels, dédiés à être échangés sur les réseaux blockchain. Donc c'est la première acquisition comme ça d'une boîte 100% métaverse par une entreprise de l'économie normale. Donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a eu une déclaration des deux entreprises. Artefact très heureux de rejoindre donc la famille avec du côté de Jordan ou Converse, et pour Nike c'est une démonstration qu'il s'intéresse à cette nouvelle économie et à ces nouvelles formes de création. De son côté, Adidas quand même n'est pas complètement à la bourre et il s'est associé avec des NFT qui font un peu le succès comme les Bored Ape Yacht Club ou encore G-Money ou encore les Punk Comic. Voilà, ceux qui savent. Pour les autres, ces œuvres d'art numérique sont vendues quelques centaines, voire quelques millions de dollars et qui vont être associées à la marque Adidas. On ne sait pas encore comment, mais voilà, à suivre. Et tiens, comme je parle donc des Bored Ape, qui sont donc un NFT où on voit un singe qui a l'air de s'ennuyer, qui sont vendus très très cher, et bien sachez que ce week-end, il y a eu un malheureux utilisateur, qui a voulu revendre donc un de ces Bored Ape et qui a fait une mauvaise manip et il l'a mis à 0,75 Ether et pas à 75 Ether comme prévu. Et du coup, la vente s'est faite instantanément puisqu'il y a des bots qui baladent sur les sites de NFT pour essayer de trouver les bonnes affaires. Et du coup, il a vendu son NFT 3 000 $ alors qu'il en valait 300 000. Eh oui, ça pique un petit peu. Allez, du côté des jeux vidéo, c'était quand même un grand événement qu'on a eu il y a quelques jours, puisqu'il y avait les Game Awards. Les Game Awards, c'est un peu les Oscars du jeu vidéo. C'est présenté par un journaliste américain qui s'appelle Geoff Keighley, qui est d'ailleurs habitué à la polémique. Et au-delà de remettre des grands prix, c'est aussi l'occasion pour pas mal d'éditeurs de dévoiler des nouveaux jeux, faire des nouvelles annonces. En fait, c'est vraiment devenu un des moments forts en 2-3 ans, des moments forts de l'année jeux vidéo, puisqu'on s'attend à voir des images exclusives ou des annonces auxquelles on ne s'attendait pas. Alors pour commencer par les prix, on va juste vous parler du jeu de l'année. Donc cette année, le jeu de l'année, c'est It Takes Two, un jeu édité par Electronic Arts, qui est assez chouette puisqu'il vous propose aux joueurs de se mettre dans la peau d'un couple qui va devoir résoudre des tas d'énigmes, et cela en collaborant. C'est un jeu où on ne peut pas jouer tout seul, il faut absolument quelqu'un pour jouer avec soi, et donc pour collaborer. C'est hyper mignon, c'est un peu dans l'esprit Toy Story, pour imaginer un petit peu l'univers visuel. Donc voilà, une très belle récompense pour un jeu qui propose une expérience pour les joueurs un peu différente. A noter aussi que dans la sélection, il y en avait pour tous les goûts, puisqu'il y avait Deathloop, dont je vous ai déjà parlé, de Arkane, les Français, qui propose un jeu d'action, qui propose de vivre dans des boucles temporelles, dans un univers superbe, qui lui a valu d'ailleurs des récompenses pour ses graphismes, donc un jeu vraiment pour gamer. Du côté de la Switch, c'était Metroid Dread qui vient de sortir, le nouveau Metroid qui a été salué. Pour la Xbox, c'est Psychonauts 2, le jeu de Tim Schafer, un jeu d'action aventure en 3D, salué par la critique aussi pour sa richesse de contenu et pour être une expérience super chouette. Et en exclusivité sur la PlayStation, c'était Ratchet & Clank Rift Apart, pareil, jeu d'action, d'aventure qui met vraiment les consoles nouvelle génération à l'honneur. Donc voilà, donc c'était la sélection des jeux de cette année. On peut être que d'accord avec cette sélection, même si je trouve que c'est assez étonnant que It Takes Two ait gagné. Je le disais, c'est aussi l'occasion de présenter quelques jeux. Alors peut-être je pourrais en citer deux ou trois annonces auxquelles on ne s'attendait pas. On a eu Sega qui a annoncé Sonic Frontier, qui est le premier jeu qui met le hérisson bleu dans un univers, ce qu'on appelle open world, ce qui fait qu'il va pouvoir se balader partout, aller chercher les missions où il veut, plus de niveaux, les associer les uns aux autres. On a aussi appris qu'il y aura un jeu Wonder Woman qui allait arriver. Et oui, il n'y a pas de raison d'avoir que du Spider-Man ou que des garçons en couleur. Il y a aussi une place pour donc, l'héroïne de la série. On a appris aussi qu'ils allaient sortir un jeu de guerre basé sur l'univers de Dune, qui va s'appeler Dune Spice Wars. Voilà, sans surprise, hein, pour faire suite un peu à la hype du cinéma. Et enfin, une annonce que j'attendais pas trop. On a appris que Among Us allait sortir en réalité virtuelle. Donc voilà, ça va être assez marrant, je pense, de se planquer. Il y a de quoi de faire quelques petits sauts sur soi-même une fois qu'on est assassiné dans le vaisseau. J'avais dit finalement, mais en fait, j'ai encore quelques jeux que je voulais évoquer. Dans les listances, il y a aussi Star Wars qui va avoir droit à une version Eclipse. C'est en fait un studio développé par le studio Quantic Dream, et donc on nous promet un jeu qui soit pas d'action mais plutôt narratif, donc à voir ce que ça peut donner. Et enfin, donc un jeu indépendant que j'attends désormais avec impatience, tellement son pixel art et son environnement a l'air super chouette, ça s'appelle Planet of Lana, et vraiment on se croirait dans l'univers de Star Wars avec tout ce qu'il faut de cyberpunk. Voilà, Planet of Lana, ça sera certainement un des jeux dont je vous reparlerai. Alors, merci encore une fois de m'avoir écouté toutes les semaines depuis maintenant presque 2 ans hein, pour les plus anciens. Donc, on se retrouve quelque part en janvier, je pense plutôt possible. Encore merci. N'hésitez pas à partager, à commenter, à venir me voir sur Twitter. Hein, mon Twitter, c'est @rrfly. Merci beaucoup et à bientôt.